Jiddu Krishnamurti, son enseignement, une émission de Claude Ferré. Bonjour Claude.
Bonjour Manu.
Dans la première émission, on avait tenté de résumer qui était Krishnamurti. Dans celle-ci, on va parler de la nature de son enseignement et on mettra surtout l'accent sur ce qui a divisé l'homme.
Tout d'abord, j'ai envie de rappeler brièvement que Krishnamurti, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente, il est né en 1895 au sud de l'Inde et il est mort en Californie, Manu, en 1986. Il faut que nous disions qu'il aura eu un vaste rayonnement au cours du XXe siècle. Il est reconnu par différents milieux et vu comme une grande figure spirituelle et humaniste du XXe siècle. Ce qui était très étonnant, c'est que des personnes de toute nature sont allées le rencontrer, s'intéressant à sa façon d'approcher l'ensemble de l'existence. Des chefs religieux de toute tendance sont venus le voir, des soi-disant gourous, des moines, des mendiants, des athées, des politiciens, des scientifiques, des prix Nobel de physique, des universitaires, des artistes, des gens simples, modestes, sont venus discuter avec lui. Alors, il va recevoir aussi bien une mère très pauvre, la pauvre qui vient de perdre son enfant, que le Dalai Lama est venu plusieurs fois rencontrer Krishnamurti et parler avec lui. Ou alors, quand elle était encore vivante, Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, qui vient, très émouvant, lui parler de ses problèmes de gouvernance, c'est pas rien. Ou alors ce grand physicien, David Bohm, prix Nobel de physique, qui vient avec Krishnamurti explorer la nature du cerveau, de la pensée, la question du temps ou de l'amour. Alors, ce que j'ai pris conscience dans mes lectures, c'est qu'il a rencontré une fois le Mahatma Gandhi en Inde. Et surtout, après l'assassinat au mois de janvier 1948 du Mahatma Gandhi, il a reçu plusieurs fois Vinoba. Vinoba, c'est le premier disciple de Gandhi, qui viendra beaucoup échanger avec Krishnamurti. C'était l'époque où on parlait beaucoup de la répartition des terres en Inde. Et c'était le moment de l'indépendance. Alors il sera aussi, j'aime beaucoup Aldous Huxley, tu sais, qui a écrit Le meilleur des mondes en 1932. Ils ont été amis très longtemps. D'ailleurs, Aldous Huxley a préfacé un livre de Krishnamurti. Alors, j'aime dire, parce que j'aime beaucoup Pierre Rabhi, bien sûr, beaucoup de gens ici connaissent Pierre Rabhi. Pierre Rabhi parle à merveille de Krishnamurti, et il en fut très influencé. Je ne vais pas citer tous les gens que Krishnamurti a rencontrés, parce que ça ferait que l'objet de l'émission, et ce n'est pas le sujet. Alors, disons qu'il a quand même, durant toute sa vie, ce que je n'ai pas dit dans la dernière, donné des conférences dans le monde entier, durant plus de 60 années, aussi bien en Amérique du Sud que du Nord, presque partout en Europe, en Australie, en Inde, dans des salles combles. Ou alors, souvent, l'été en plein air, dans des camps d'été, où je suis allé, comme je te l'ai dit, en Suisse, à Sanon, plusieurs années de suite. Les grandes universités aux États-Unis l'accueillent. Parlera une fois à la Sorbonne, à Paris. Il s'entretiendra aussi beaucoup avec des petits groupes d'amis. Il est invité une fois à s'exprimer, je crois que c'est en 84, je ne m'en souviens plus, s'exprimer à New York à la tribune des Nations Unies, où on l'invite pour parler de la paix dans le monde. C'était, je crois, le 40e anniversaire à l'ONU. Voilà. Et une fois aussi, il a été, pour illustrer un peu le spectre à travers les gens avec lesquels il parle, quoi, hein, à Los Alamos, au New Mexico, au Nouveau-Mexique, là où il y a un grand centre, un laboratoire national de recherche scientifique sur l'armement, la défense américaine. c'est pas rien, il a parlé devant des grands scientifiques, là. Le sujet, c'est créativité et science. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, la discussion qu'il a eue avec ces scientifiques. Et alors, ce que je veux dire, c'est que les œuvres de Krishnamurti, aujourd'hui, figurent au programme des facultés de philosophie, psychologie et de sciences de l'éducation dans plus d'une centaine d'universités et collèges américains. Donc, il est évident qu'on peut dire que son enseignement est toujours aujourd'hui d'une actualité vivante, Manu. Bon, on peut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toute librairie, on peut trouver des ouvrages de Krishnamurti. J'ai trouvé que j'ai pris conscience en voyageant et en lisant des articles que, tu sais, Manu, qu'il n'a jamais pu aller en Russie du temps de son vivant, Krishnamurti. Ce n'était pas possible qu'il aille parler de la liberté comme cela. Donc, là où il n'a pas pu parler, comme la Russie, des pays comme la Thaïlande, la Tunisie, l'Afrique du Nord, pour citer que ces pays, aujourd'hui, Manu, j'ai trouvé ça assez fantastique, c'est qu'il y a à Sotchi, aux portes du Caucase, au bord de la mer Noire, j'y suis passé là tout près quand je m'intéressais à Tolstoï, il y a un centre de réflexion sur Krishnamurti, au fin fond de la Russie, à Sotchi. Il y en a en Thaïlande, et il y en a même en Tunisie, à Sousse. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui l'enseignement de Krishnamurti devient répandu tout autour de la Terre. Il ne faut surtout pas que j'oublie de dire que des écoles sous son impulsion ont été créées en Angleterre, plusieurs en Inde et aux États-Unis. C'est quelque chose qui lui prenait vraiment, vraiment à cœur, l'éducation des jeunes, de la jeune génération.
Pourquoi tant de passion et qu'est-ce qui attire tant chez Krishnamurti ?
Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui passionne et attire tant chez Krishnamurti ? Est-ce que c'est cette fameuse phrase qu'il a répondu, qu'il a prononcée en 1929 lors de la dissolution de l'étoile, « La vérité est un pays sans chemin ». Est-ce l'impérative nécessité d'une mutation chez l'homme ? L'urgence de changer qu'il nous communique, qu'il nous fait sentir quand on est en relation avec lui ? Il nous transmet cette urgence, tu vois Manu, de changer intérieurement. Et est-ce que c'est cette ouverture sans limite de notre cerveau qu'il nous propose, où réside, dit-il, dans ce cerveau de chaque individu, un vaste espace dans lequel se trouve une énergie inimaginable, colossale, dit-il. Et c'est seulement dans cet état-là qu'une paix totale, non seulement en soi-même, peut naître et exister, mais entre les hommes. Je pense que c'est certainement ça qui attire les gens qui vont voir Krishnamurti ou l'écouter. Et puis, on observe qu'il va traiter tous les sujets de l'homme, Manu. Que ce soit la peur, l'angoisse de vivre, la mort, la jalousie, les désirs. Pourquoi je veux toujours plus posséder ? La recherche du plaisir, la solitude, l'isolement, les divisions entre les hommes dont nous allons parler, l'espoir, le désespoir, cette fameuse amour-haine que nous connaissons tous, l'amour-attachement qui est désir et plaisir, nos dépendances, la souffrance, la mort, qu'est-ce qu'elle est ? Mais voilà, il va passer en revue et inviter son auditoire, la personne qui l'écoute, à regarder tous ces sujets, nous-mêmes, quoi. Mais j'ai envie de dire, avant de continuer, que ce qui est très important, c'est qu'un des aspects qu'il faut tenir compte, Manu, était sa nature profondément affectueuse. Bien évidemment, la nature qui nous entoure avait une place très importante pour Krishnamurti. Il disait souvent, on est cette nature, on n'est pas séparés. si on est séparé de la nature, la porte est à l'autre, notre semblable, la porte est ouverte à tous les conflits. Mais voilà, l'affection faisait partie de son enseignement. Quand les gens lui demandèrent à la fin de sa vie, pourquoi continuez-vous à parler ? Les gens y répondaient, y réfléchissaient un petit moment, puis ils disaient tout simplement, mais par affection, je continue à parler. Pourquoi donc ? Vous ne restez pas sur place, parce qu'ils voyageaient sans arrêt, et laissez les gens venir vers vous. Parce que la plupart d'entre eux ne peuvent pas se payer le voyage, il disait. Alors, il dit aussi, je leur offre quelque chose. S'ils ne la veulent pas, ce n'est pas grave. Il voyait l'amour d'une façon différente de la plupart d'entre nous. Il pouvait simplement dire ce qu'était l'amour en découvrant ce qu'il n'était pas. L'amour, ce n'est pas la jalousie. L'amour, ce n'est pas la possessivité. L'amour, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Seulement, dit-il, quand vous avez éliminé toutes les choses que l'amour n'est pas, vous pouvez enfin découvrir ce qu'est cette flamme extraordinaire que le monde veut et que tout le monde cherche. Aimer, ça se passe toujours dans le présent, disait-il. Ce n'est pas une recette que l'on peut appliquer. C'est un état qui survient quand tout conditionnement, tout savoir à son sujet a disparu. Quand vous mourrez au connu, dit-il, l'inconnu peut seulement être. Nous avons déjà dit que Krishnamurti ne propose pas de nouvelles méthodes. Il invite plutôt à regarder en nous, autour de nous, voir nos semblables, être sensible à la nature, nous voir en somme tels que nous sommes. Il ne cesse de, dans son enseignement, dans ses rapports, lorsqu'on l'écoute, il ne cesse de susciter l'éveil de l'intelligence. D'ailleurs, Manu, c'est le titre d'un de ses ouvrages qui fait partie du livre le plus lu avec ce « Libéré du connu » dont nous avons parlé dans la première émission et aussi, disons-le, avec « La première et dernière liberté ». Ces trois livres, quand on les a lus, on est déjà au parfum dans l'enseignement de Krishnamurti. Donc, il insistera toute sa vie que c'est seulement, pas par des recettes, c'est par une prise de conscience aiguë de nous-mêmes que des espaces de liberté peuvent naître, que seulement l'amour peut naître. Pas à partir de nos projections, des spéculations, ou par des identifications à quoi que ce soit, ou encore moins par l'analyse des causes de nos problèmes que l'on peut être libre. Il dit souvent, et j'aime beaucoup cela, l'éternité, c'est maintenant, là, ici, en nous. On marche dessus presque, comme disait quelqu'un. Autour, c'est pas au loin, c'est pas demain, c'est pas ailleurs. C'est parce que nous ne sommes pas présents au présent, au temps qui passe dans le maintenant, que nous avons tant de problèmes, dit-il. Parce que nous vivons de constructions mentales, qui sont là pour fuir le maintenant, le ce qui est, le fait, comme il dit, qui souvent nous effraie. Alors, nos actions sont régies par la peur. Donc, pourquoi l'homme vit sur cette terre avec autant de problèmes et surtout pourquoi s'en accommode-t-il ?
Alors, comment s'y prendre si on n'a pas de pratique, si on n'a pas de recette ?
Oui, c'est une question que j'observe depuis 40 ans, Manu.
Tu en avais déjà un peu parlé lors de la précédente émission.
Oui. Alors, je viens un petit peu de le dire, Manu, si tu veux. Hein. Comment s'y prendre si Krishnamurti ne donne pas de recette, ne s'érige pas en gourou, ni en maître, quel qu'il soit ? De quelque nature le maître peut être. Mais voilà, il dit, quand observez comment vous fonctionnez, observez vos désirs, observez votre agressivité en vous, sans jugement, qui dit, c'est pas évident, sans jugement. Et il va, justement, il va insister là-dessus toute sa vie, sur les divisions. Les divisions dans l'homme, les divisions en soi-même, qui doivent être vues, qui doivent être perçues, comme il dira. Toutes les contradictions que l'on a, tout être humain a ses contradictions, et tous ces jugements de nous-mêmes que nous avons, tous ces jugements. Et c'est là où s'articule, si on peut dire, l'enseignement de Krishnamurti, c'est que on ne peut pas agir sur nous-mêmes. Toute action décidée, je suis violent, je vais être non violent. Je suis jaloux, tu vois, je ne vais pas. Tu ne peux pas. Tu auras beau, il l'explique, il le montre, il le démontre sur toutes les facettes. Et c'est vouloir agir sur nous-mêmes. Ça fait partie de la division intérieure de nous-mêmes. Et on va entendre une lecture qui illustre un peu ce que nous sommes en train de dire.
Nous sommes, chacun de nous, responsables de chaque guerre, à cause de l'agressivité de notre propre vie, à cause de notre nationalisme, de notre égoïsme, de nos dieux, de nos préjugés, de nos idéaux qui nous divisent. Vous n'êtes pas un hindou, un chrétien, un musulman, un communiste, un athée, un juif ou un arabe, un français ou un américain. Vous êtes un être humain. C'est le conditionnement que vous avez reçu qui vous divise. Il est votre fardeau. Il est comme un programme d'ordinateur que vous avez reçu à la naissance et qui est entretenu par la société dans laquelle vous vivez. Et vous réagissez à votre semblable, au monde, selon votre conditionnement, qui vient se heurter à un autre conditionnement. Ainsi, vous ne voyez jamais véritablement votre voisin, votre femme ou votre mari. Ce n'est qu'en nous rendant compte, aussi réel et actuel qu'éprouver la faim ou la douleur, que vous et moi sommes responsables de la misère du monde entier, parce que nous y avons contribué dans nos vies quotidiennes et que nous faisons partie de cette monstrueuse société, de ses guerres, ses divisions, sa laideur, sa brutalité et son avidité. Et ce n'est qu'alors que nous agirons. La vérité est la compréhension de tout cela. Vous ne pouvez le comprendre qu'en sachant le voir dans votre vie. Il est impossible de le voir à travers une idéologie, à travers un écran de mots, à travers l'espoir ou la peur.
On a entendu cet extrait de Se libérer du connu. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent ne plus avoir d'appartenance politique, ne plus avoir d'appartenance religieuse, ne plus avoir d'appartenance tribal, national. Mais qui suis-je alors? C'est de la folie, ça. Tu vois, les gens s'affolent complètement. Non. Krishnamurti vous dira, vivez-le, vous verrez de quoi il s'agit. Moi, personnellement, je trouve, je trouve que ne plus avoir d'appartenance religieuse, par exemple, n'écarte pas du tout la dimension spirituelle en moi. Pas du tout. Bien au contraire. Parce que dans cet état, je me sens même plus lié aux hommes, lié au monde, car je me sens quelque part délivré, Manu, d'une appartenance spécifique. Et donc, je me sens bien plus libre intérieurement. Il est possible, quand tu n'as pas toutes ces identifications qui sont un fait, qui sont là, mais quand même, si on aperçoit le monde tel qu'il est, Manu, ça crée une sacrée division, cette division politique, religieuse, nationale, scientifique. Tu as vu comment certains politiciens parlent de l'autre. Voilà. On dira après, qu'est-ce que peut faire un homme tout seul ? Voilà, devant toutes ces questions, on va dire souvent, mais c'est bien gentil tout ça, mais moi tout seul, qu'est-ce que je peux faire ? Que pouvons-nous faire, vous et moi, dit-il. L'union de la vie individuelle avec la vie universelle est-elle possible ? Mais ce que j'ai constaté à travers Krishnamurti et puis dans ma petite existence telle qu'elle est, je trouve qu'on ne met pas suffisamment l'importance que l'individu est de toute première importance, si on peut dire. Rien n'est plus précieux que la personne. Ce n'est pas les théories, les techniques, les formes qui sont... C'est l'individu. Parce que il n'est pas le seul à dire ça, Krishnamurti. On le développera peut-être plus tard. Il dit l'individu est le monde. Le monde, c'est vous qui dit. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à commencer à percevoir ce phénomène. Le monde, vous êtes le monde. Ah, mon Dieu, mais quelle responsabilité, dis donc. Si un être humain, dit-il, se transforme véritablement, quand on parle de se transformer, ça veut dire être capable, apte à vivre avec une conscience, un cerveau, au-delà de toutes ces divisions, Manu, tu vois. Alors là, il transforme le monde. Donc, avec Krishnamurti, pas de futur, pas d'espérance, pas d'espoir que l'on va changer demain, ou après-demain, ou dans 100 ans, c'est maintenant. Et les divisions, quelles qu'elles soient, les divisions qu'on vient de décrire en soi-même, à l'extérieur, créent indiscutablement, on le voit facilement, c'est facile à voir extérieurement, que toutes ces divisions politiques, religieuses, sociales, nationales, mon pays, je suis ceci, je suis cela, créent la violence. Tant qu'il y aura des cerveaux, des esprits qui seront dans ces schémas-là, dit-il, la violence n'aura pas de fin. Vous aurez beau avoir des désirs de non-violence, de paix, mais si, tant que vous n'aurez pas vu la violence en vous, la façon dont vous fonctionnez intérieurement, rien ne pourra se faire dans la paix.
Imagine.
Une belle chanson de John Lennon, les Beatles, que j'ai trouvée, qui illustre un peu ce que nous sommes en train de dire. Oui, Krishnamurti ne cesse de dire que là où il n'y a pas division, il y a amour. Et comme on disait tout à l'heure, et sans amour, tout ce que vous entreprendrez n'aura aucun sens et apportera encore davantage de chaos. Donc là, on a une sacrée responsabilité à agir dans l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant de terminer? Moi, j'ai envie de dire que il me semble que est-ce que l'homme a tellement peur de vivre? C'est ce qu'on pourrait penser quelquefois, lorsqu'on voit les actions qui se passent. Peur de mourir? Oui, on a peur de mourir, bien sûr. Peur de ne pas exister? Sentiment de solitude, d'isolement que l'homme ressent. Et que cette peur immense, de vide, l'entraînerait vers sa propre destruction? Pour exister, on détruit, on entraîne l'autre à avoir des comportements ou soi-même les plus fous pour se sentir exister et puis présider en autorité sur ses semblables. Si l'homme est devant une impasse, cette impasse, on ne peut pas faire autrement que de penser que c'est lui-même, c'est nous-mêmes qui l'ont créé. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Et dans sa recherche de sortir de ses problèmes en les fuyant, il les renforce. Et il les renforce et il cherche désespérément des solutions à l'extérieur de lui par les religions, les politiques, les révolutions sociales, les guerres, les découvertes scientifiques, en créant de nouveaux dieux, de nouvelles idoles, de nouveaux systèmes de pensée, en s'attachant à des idéaux, à des personnes. Et l'homme, intérieurement, me semble le même. Mais alors maintenant, c'est un programme assez énorme à envisager, mais sans considérer cette démarche, je ne vois pas comment l'homme peut s'en sortir, parce que on a observé depuis des millénaires que l'homme a essayé toujours de chercher à vivre le mieux possible en paix, et là on est dans des périodes de soi-disant crise. C'est comme si, Manu, j'ai l'impression que dans nos sociétés actuelles, absolument débridées, où on a l'impression que l'homme cherche désespérément à mieux être, à être tout simplement en paix. Et plus il cherche ça, plus il détruit. Parce que l'homme a créé des choses merveilleuses. Tu vois, depuis la brouette de nos ancêtres pour porter le foin aux vaches, là maintenant, des tracteurs, quatre roues motrices, et puis de la bicyclette, on a passé l'avion à réaction. C'est quand même des technologies énormes, l'eau à la maison. Mais par contre, en parallèle de ça, il a créé la bombe atomique. Donc, l'homme est capable. Et donc, je pense que sans maîtrise de toute cette science, cette technologie qui est merveilleuse. Je trouve qu'Internet est fantastique, tout ce savoir, cette connaissance que nous avons à disposition. Mais oui, mais tout ça, tout ça n'est pas une fin. L'avion à réaction, la bombe atomique, ben non. Non, parce que les gens meurent de faim de plus en plus. dans le monde. Les guerres, apparemment, elles se multiplient. On dit qu'il y a des richesses, mais les gens deviennent de plus en plus pauvres. Donc, il y a bien quelque chose
qui cloche.
Qui cloche. On a, si tu veux, on a l'impression, avec ce que Krishnamurti nous montre, nous dévoile en nous-mêmes, on a l'impression que l'homme vit sa vie par le mauvais bout. Tu vois, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est comme si je prenais ma hache pour couper mon bois par la lame, quoi. Parce que je ne sais pas m'en servir, c'est évident que je vais me trancher la main. Et on a l'impression, la façon, les actions, la pensée, la façon de se comporter aujourd'hui de l'homme conduit vers quelque chose, vers une espèce de destruction. On me dira, bien sûr, il n'y a pas que de la destruction, bien évidemment, sinon l'homme n'existerait plus sur la Terre. Mais, apparemment, elle domine le monde quand même, hein. C'est comme si, ce qui cloche, comme tu dis Manu, on a l'impression que l'homme ne contrôle plus sa vie. Tu vois, la voiture est emballée, quoi. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, quoi. On a l'impression de cela. Et que pour construire, pour vivre, il faut quand même tenir sa hache. Autrefois, bon, maintenant, c'est une symbolique, hein, pour construire sa maison, ou il faut bêcher, il faut faucher son champ, il faut faire son jardin. Mais on a l'impression, pour vivre, que l'homme prend sa vie par le mauvais bout et qu'elle se retourne contre lui. Et pour terminer cette émission, j'ai envie de dire que Krishnamurti nous invite, il n'est pas le seul, bien évidemment, il y en a d'autres, mais bon, on parle de Krishnamurti, que sans explorer notre conscience, notre cerveau, qui crée ces divisions, parce qu'on parle de division, qui crée ces divisions entre, comme on a parlé tout à l'heure, hein, et tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, cette unité, parce que division veut dire séparation, conflit, contradiction. Et l'homme en est un peu conscient, j'en suis un peu conscient de cela, mais ce n'est pas pour ça que j'arrive à changer. Ça demande apparemment une prise de conscience que je n'ai pas suffisamment faite. Et cette prise de conscience, dit-il, je la perçois un peu intellectuellement, mais viscéralement, pas suffisamment sans doute. Elle est, si tu veux, on en parlera peut-être une autre fois, elle est dans ce terme, l'observateur est la chose observée. C'est-à-dire que c'est une illusion de croire que quand tu dis « j'observe quelque chose », moi-même, ma violence, ma souffrance ou le monde extérieur, c'est déjà l'essence de la division. Et le « moi », quand il dit « je », l'ego, est un fait, dit Krishnamurti, mais parfaitement une illusion. Et c'est, je peux comprendre cela, tu vois, c'est que quand tu regardes quelque chose sans cette division, comme il dit que l'observateur, c'est des grands mots, mais c'est des mots, c'est pas seulement des mots, il faut les vivre, bien sûr, que quand cet observateur, ce cerveau qui regarde, qui observe, cette conscience qui regarde quoi que ce soit, ma jalousie, ma tristesse, ma solitude, mon isolement, l'isolement, qui n'est pas, dit Krishnamurti, ma solitude, mon isolement, c'est la solitude, l'isolement, la souffrance du monde entier, qui dit. Et c'est quand même, c'est une démarche qui m'intéresse beaucoup, Manu, à approfondir, avant de mourir, si j'y arrive. Mais, avant de mourir, il dit, c'est la véritable mort. N'attendez pas d'être malade, ou d'être vieux, ou d'avoir un accident pour mourir. Mourez maintenant. Mourir, c'est ça, qu'il dit. C'est après ce que j'ai compris. Voilà, mourir, c'est mourir à tous nos attachements. Et il y a, pour conclure, allez, pour terminer, j'ai envie de raconter une petite histoire que Krishnamurti raconte parfois de deux moines. On est en Inde. Alors, pour illustrer ce qu'est l'attachement, la dépendance. Je vais essayer de me concentrer pour raconter cette belle histoire à ma façon, comme je l'ai entendue. Mais on peut l'écouter, on peut la lire ailleurs. Voilà, donc on est en Inde, il y a deux moines qui ont fait vœu de chasteté, comme tous les moines font. Et ils sont partis mendier avec leur bol pour se nourrir. Hein. Et ils ont passé une rivière basse le matin pour aller au village suivant. Et le soir, ils retournent pour repasser la rivière. La rivière est devenue très haute, elle a monté. Il y a une inondation. Et il y a une femme, une jeune femme qui pleure parce qu'elle a traversé pour aller travailler son champ et elle ne peut plus rentrer chez elle. Et la rivière est tellement haute qu'elle ne peut pas. Et un des moines dit à cette jeune femme, écoutez, ne pleurez pas, je vais vous prendre sur mon dos. Sur mes épaules, nous allons traverser la rivière. Et un des deux moines prend cette femme sur son dos et traverse la rivière. La femme remercie le moine, voilà, et elle s'en va. Et les deux moines partent vers leur monastère. Et au bout de deux heures qu'ils marchent tous les deux, seul le moine qui n'a pas porté la femme dit, mais à l'autre, mais écoute, cher confrère, nous avons quand même fait vœu de chasteté. Ça ne vous a rien fait de porter une femme? Ça ne vous a pas excité? C'est pas bien. Et le moine qui a porté la femme lui répond, écoutez, il y a 2 heures que j'ai laissé cette femme et vous la portez maintenant.
Jiddu Krishnamurti, son enseignement, une émission de Claude Ferré.